Je nous invite à la prière pour le message et aussi pour notre sœur Eliette et tous les cœurs disponibles dans de telles circonstances. J'y reviendrai. Prions. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que toute la gloire te revienne. Nous voudrions te recommander l'Éternel, Père, nos bien-aimés malades entre tes mains, au premier rang desquels, Seigneur, notre sœur Eliette, suite à cette brûlure qu'elle a subie. Mais nous voudrions aussi avoir une pensée pour ceux qui sont aussi malades, pour notre frère Christian Boisson, nous te recommander d'aider au dîner. Nous te bénissons aussi pour Momo et bien d'autres personnes qui ont des difficultés de santé réelles. Seigneur, tu nous as tout donné en Jésus. Accorde-nous de porter le regard sur le Christ, en qui tout est achevé, tout est accompli. Nous avons besoin de le réaliser, Seigneur. Et je te prie ce matin d'ouvrir nos oreilles, nos cœurs, notre esprit, à la découverte de ce que tu as déjà fait. Parfois, nous le disons de notre bouche, mais nous avons de la peine à le réaliser mentalement et au niveau de nos cœurs, pour pouvoir y accéder et d'y vivre réellement. Seigneur, je te bénis toutes les bonnes volontés qui se lèvent au sein de notre assemblée, pour soutenir les plus faibles, ceux qui sont en difficulté. Oh, combien je te prie ce matin de les renouveler dans leur force, de les ossifier, Seigneur Dieu, dans leur consécration. Car ce sont tes bras qui s'expriment. Et nous voulons nous recommander tous entre tes mains. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. William Booth, qui est le fondateur de l'armée de salut, disait en son temps qu'il viendra un moment où les gens vont mener un christianisme sans le Saint-Esprit. Ils vont vouloir vivre le ciel, mais tout en agissant comme s'ils allaient en enfer. Ils veulent vivre du pardon, mais sans vouloir donner le pardon et le rechercher auprès de Dieu. Ils veulent avoir la lumière, mais en même temps, ils ferment les volets des maisons dans lesquelles ils se trouvent. Et je voudrais vous partager mon cœur ce matin. Je n'avais pas envie de préparer une prédication, mais de parler cœur à cœur. Parce que la Bible a dit que le fer aiguise le fer, le cœur parle au cœur. Mais étant donné que je n'ai pas fini ma prédication du dimanche dernier, je vais faire un petit rappel de ce qui a été dit et je vais me projeter avec vous. Je vous invite à m'écouter d'une oreille attentive. Je veux que vos émotions soient touchées, que votre intellect soit touché. Pas que l'intellect, parce que la parole de Dieu reste beaucoup ici. Elle ne descend pas là. Donc, toutes ces dimensions ce matin, je vais les toucher. Et écoutez avant de me jeter la pierre dessus. C'est pour notre bien. Alors, le dimanche dernier, nous allons reprendre le texte de Genèse chapitre 15, qui est pour moi très fondateur de l'alliance que nous vivons dans la nouvelle alliance avec Dieu. Mais qui, malheureusement, est enfoui dans les doctrines religieuses. On prend un aspect d'une vérité, on le gonfle, on élabore une théorie dessus qui devient une doctrine et on relègue au second, troisième, quatrième plan ce qui apparaît très, très, très important. Vous me suivez? Et je voudrais vous parler de la parole du Seigneur. Que cette parole-là, rien d'autre. Nous allons lire Genèse chapitre 15, de manière perlée. Il lui dit encore, ça c'est Dieu qui parle, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Il parle à Abraham. Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité. Verset 17. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Gadmoniens, des Hittites, des Phérisiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébousiens. » Vous voyez, tous ces esprits dont on parle là, ou ces territoires, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Et lorsque Dieu a délivré son peuple pour les conduire vers la nouvelle terre, ils auront des combats à mener. Évidemment, au temps de l'Ancien Testament, c'est incarné par des humains, par des peuplades, par des nations. Mais à notre époque, à l'heure actuelle, ils représentent des esprits qui sont des esprits de l'Antichrist, dont je parlerai tout à l'heure. Par exemple, l'esprit girgasien, c'est un type d'esprit méchant qui insiste sur les choses terrestres, qui aspire notre cœur à considérer la vie en fonction des acquisitions matérielles. On apprécie la valeur d'un individu en fonction de l'épaisseur de son argent en banque, en fonction de ce qu'il a et en fonction des valeurs terrestres. Et la Bible dit, c'est un être qui est incliné vers les choses de la terre. Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'ai vu quelqu'un dire Amen. Oui, c'est Amen. Mais la phrase n'est pas terminée. Qui ne vit pas selon la chair, mais qui vit selon l'esprit. Et donc là, tout change. Dieu s'adresse à Abraham après que Satan ait usurpé l'autorité sur le monde. Il se lance à l'assaut du dernier bastion parce qu'il a tout conquis, ce prince du monde. Et le dernier bastion dans lequel l'ennemi s'est élancé, c'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus, le corps de Christ, son grand ennemi, dont toi et moi nous faisons partie. Donc nous sommes sa cible. La Bible est un livre de promesses. Et lesquelles promesses sont les nôtres que je dois comprendre, saisir et la vivre? Et dans l'une des promesses qui est la plus importante, c'est l'alliance dont on parlait. On parle souvent dans le jargon l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ça, c'est une manière intellectuelle de voir les choses. Une grille de lecture théologique pour comprendre ce que Dieu est en train de faire aux humains. Parce qu'après l'expérience que les gens ont vécue dans leur relation avec Dieu, ils en ont tiré les grandes lignes pour enseigner la génération qui vient que voilà un tel type de rapport que nous devons avoir avec Dieu. On appelle ça les dispensations. Et ça vient par ère. Ça vient par époque, ça vient par période. Lorsque l'ère de Adam était terminée, une autre ère vient, c'est celle de Noé. Et celle de Noé aussi va terminer. Une autre ère va commencer pour arriver à celle de Moïse. Celle de Moïse va terminer et une autre va commencer avec Jésus qui va terminer à l'Apocalypse que nous étudions laborieusement mais convenablement ces jours-ci pour ceux qui sont ponctuels. Donc là, Dieu est en train d'ouvrir une autre ère de son rapport avec l'être humain après qu'il ait détruit la terre. Il a vu que l'être humain n'est plus à son image, à sa ressemblance. La méchanceté est allée plus haut. Et Dieu a dit, que vais-je faire? Je ne reconnais plus l'être humain que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Dieu a manifesté sa colère. Il a supprimé tous ceux qui sont les porteurs de cette valeur anti-biblique, anti-Dieu. Et Dieu voulait nettoyer la terre. Et il l'a fait. Il l'a fait. Mais il a sauvé 8 personnes. Il a sauvé 8 personnes. Noé, qui signifie arche, avec sa femme et ses enfants. Une nouvelle humanité recommence. Mais sauf que Dieu, en détruisant les hommes qui sont porteurs du péché, il a oublié que le péché a pris naissance en nous. Et là où il y a l'être humain, et que le péché n'est pas détruit, le péché repousse encore à nouveau. Et à partir d'Adam et Ève, une nouvelle humanité commence. Ben, il fallait que Dieu encore manifeste sa colère en détruisant Sodome et Gomorre. Donc on voit qu'on est dans un système de va et de vient. Le mal s'est introduit pour compromettre le plan de Dieu. Dieu intervient pour trouver une solution. L'ennemi, qui est plus fort que nous d'ailleurs, a trouvé une parade pour compromettre le plan de Dieu. Et Dieu est en train de travailler. Comment faire pour sauver l'homme et le replacer dans le contexte initial où je l'avais établi? Mais puisque le péché est en lui, que dois-je faire? Dieu va donner des règles. Il va donner des lois. Mais cependant, la loi que Dieu a donnée pour le bien de l'être humain, cette loi est devenue une malédiction. Parce que l'être humain, foncièrement, est incapable de faire le bien. Je vous le dis. Ça ne dépend pas de vous. C'est l'héritage que nous avons depuis Adam et Ève. Même le bien que nous sommes censés faire, aux yeux de Dieu, c'est du mal. Parce que la position dans laquelle nous nous plaçons ne nous permet pas de faire le bien selon Dieu. Dieu a dit, mais que vais-je faire? Si je leur donne la loi devient encore une pierre d'achoppement, une malédiction. Mais que vais-je faire? Alors Dieu a mis en place un plan merveilleux que nous allons voir à l'issue de cette nouvelle alliance. Et c'est là que je voudrais que votre regard soit porté. Dieu lui a dit maintenant, quand il y a une alliance, il y a 3 signes. D'abord, l'alliance entre 2 personnes. Et puis, le moyen de l'alliance, le signe, est maintenant l'expression de l'alliance. L'alliance entre Dieu et Abraham. Et Dieu a été très clair ici. Tu vas me prendre ces animaux, tu vas les couper en 2. C'est pour dire que désormais, moitié-moitié entre toi et moi. Je ne te considère pas comme inférieur, je ne te considère pas comme supérieur, mais tu es issu de moi, moitié-moitié, ça que Dieu voulait dire à Abraham. L'initiative vient de qui? L'initiative vient de Dieu. Abraham n'a qu'une seule chose à faire, sur laquelle je reviendrai. La seule responsabilité, le 1% qu'il a à faire dans cet acte, c'est d'obéir, d'aller chercher les animaux que Dieu a demandés. Quand Dieu a demandé une génisse, c'est une génisse. Quand il a demandé un bélier, c'est un bélier. Quand il a dit une tourterelle, c'est une tourterelle. Il ne faut pas lui apporter un éléphant, il ne faut pas lui amener un lion. Il faut amener exactement les animaux que Dieu a demandés. L'a-t-il fait? Il l'a fait. Par obéissance. Et parce qu'il a mis foi. Il est resté 1 heure à côté de ces animaux. 2 heures. 3 heures, 5 heures. Sûrement les gens qui circulaient disent, mais qu'est-ce que tu fais toi, Abraham? Il attendait que Dieu passe. Mais Dieu n'est pas passé. C'est au moment où lui, il va tomber dans le sommeil, voulu par le Seigneur, que Dieu est passé. Et cette stade est très très importante. Pourquoi Dieu est passé au moment où Abraham est dans le sommeil? Il n'est pas conscient de ce qui se passe. Dieu voulait lui faire comprendre que tu n'as rien à faire dans cette histoire. L'initiative vient de moi. Même si tu es incapable de faire ta part, moi, Dieu, je le ferai à ta place. Et laissez-moi vous rassurer que Dieu peut nous sauver contre nous-mêmes. Et je le redis encore. Peut-être que vous ne l'avez pas assez entendu. Nous sommes notre propre ennemi. Je peux vous avouer. Nous sommes notre propre ennemi et nous-mêmes, nous changeons parfois les valeurs de choses. En voilà une. Si je fais quelque chose qui ne me donne pas plaisir, ce n'est pas bon. Qui vous a dit que si je fais quelque chose qui ne me donne pas plaisir, ce n'est pas bon? Ça, c'est un premier mensonge. C'est le langage de la chair qui pervertit les choses de Dieu. Et pourtant, Dieu dit plus loin que parfois les douleurs que nous éprouvons peuvent être des douleurs salutaires. Vous voyez? Le sens de la souffrance est perverti. Au point qu'à l'heure actuelle, les gens élaborent une théologie où quand tu es en difficulté, tu es malade, il te manque d'argent, tu as de la peine à joindre le debout. Regarde, celui-là, il est maudit. Dieu ne le bénit pas. Qui vous a dit que Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est en difficulté? Si telle est la bénédiction de Dieu, Jésus serait l'homme le plus damné de la terre. Lui, il dit que je connais quelqu'un, le fils de l'homme, il ne sait pas où reposer sa tête. Mais cependant, c'est lui qui va conduire tout le monde dans le salut. Dieu veut montrer à Abraham que tu n'as rien à faire et que cette alliance, je m'engage et je le scelle pour moi-même. C'est pourquoi la Bible a dit que même si l'être humain est infidèle, Dieu, lui, il reste fidèle. Ainsi, ce sacrifice est une expression de partage de responsabilité de chacune des parties. Et je le redis encore, mais en passant seul au milieu des morceaux, Dieu atteste qu'il prend l'initiative du pacte et que ce sont ses promesses qui vont s'accomplir. Et ses promesses ici sont inconditionnelles. Elles le deviendront plus tard. Pour quelles raisons que je vais vous expliquer. Dans cette alliance, Dieu s'engage pour les deux contractants. Dieu s'engage pour lui, pour honorer sa parole, et il s'engage pour celui qui reçoit le bénéficiaire. Et Dieu prend en lui tout seul le terme de l'alliance. Abraham n'a rien promis. Il n'a qu'une seule chose à faire. Croire. C'était sa part. Croire. Et dans ce contexte, croire dans l'Ancien Testament signifie s'appuyer sur, s'attendre à. Il s'attend à Dieu en toutes circonstances. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui l'a dit, il le ferait. Et la suite va prouver que Dieu n'a pas tort. Abraham était une famille patriarcale, une famille pastorale. On aurait pensé qu'une famille missionnaire de la part de Dieu, le péché ne peut même pas être noté dans leur vie. Et pourtant, vous avez regardé la vie d'Abraham? Combien de fois il a menti? Il s'est même comporté en proxénète. Il a vendu même Sarah en Égypte. Dis-leur que tu es ma sœur. Comme ça, ils vont bien me traiter. Quel mensonge! Dieu l'a rejeté. C'est pour dire que Dieu, dans sa grâce, il peut intégrer même nos erreurs pour notre bien. Et nous confirmons cette parole de Romains chapitre 8, verset 28, qui dit ceci. Toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans certaines versions, collabore, coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon sa volonté. Je vous rassure, nos propres péchés, Dieu peut l'utiliser pour notre propre bien. Parce que c'est à lui que revient le dernier mot. Nous n'avons pas choisi d'être nés pécheurs. Qui du milieu de nous avait choisi d'être nés pécheurs? Levez la main. Moi non plus. Mais nous sommes nés pécheurs. Dieu le sait. Voilà pourquoi il veut se substituer à nous pour nous sauver. Et là, il fallait que quelqu'un vienne, non seulement apporter la lumière, mais quelqu'un qui vient être avec nous à l'intérieur. Pour tuer la racine du péché. Pour nous aider maintenant à marcher selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Mais comme Jésus, il est physique. Quand il était venu, il était au seul endroit à la fois. Quand il a Bethphagé, il n'est pas à Jérusalem. Quand il est à Jérusalem, il n'est pas à Nazareth. Mais il faisait du bien. Par la puissance que Dieu lui a donnée, il parcourait les villages, il guérissait les malades, il chassait les démons. Est-ce que cette puissance est d'actualité? Je vous dis oui. Mais vous allez voir qu'il y a la doctrine cessationniste qui va dire que les choses du Saint-Esprit sont terminées, ça a un temps ancien. Le diable, lui, il est terminé. Si le Saint-Esprit dans son action est terminé, c'est que le diable est déjà bouclé. Est-ce que le diable, il est bouclé? Aussi longtemps qu'il est encore en œuvre, la puissance de l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Moi, je suis issu d'un pays qui a reçu la colonisation et qui a reçu l'évangile il n'y a même pas 200 ans. Résurrection, j'en ai assisté. Des phénomènes, j'en ai vu complètement retourner la tête. Je n'ose pas vous en parler. Pourquoi? Parce que vous allez me prendre pour un fou. J'ai vu de mes propres yeux. Et je ne peux pas admettre cette théorie qui dit que le Saint-Esprit est terminé et qu'il a fini son travail. Faux! Ça, c'est une doctrine qui vient de l'enfer pour démunir l'Église, qui n'a plus de puissance et elle est exposée. Dieu ne veut pas que vous soyez exposés. Il nous a tout donné. Priez pour les malades, c'est biblique, mes bien-aimés. Combien de fois je brûle de désir de prier pour les gens qui sont malades? Allez, annoncez la parole de Dieu. Priez pour les malades, chassez les démons. C'est biblique, ça. Quand la réforme a eu lieu, c'est de restituer l'autorité de la parole dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous savez, la parole de Dieu, quand vous prenez un verset et que vous l'enlevez de l'ensemble de l'architecture, tout s'écroule. Parce que tout se tient. Tout se tient. Alors ces génisses, ces offrandes, ces sacrifices, c'est la préfiguration de Jésus. Ce n'est pas nous qui avons offert Jésus, c'est Dieu qui l'a fait. Son Fils, il l'a envoyé pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son propre Fils. Et Jésus est mort à la croix, et il a dit dans Jean chapitre 19, verset 30, que tout est accompli. C'est-à-dire que ce que les prophètes ont dit dans l'Ancien Testament, moi Jésus, je l'ai accompli. Et le verbe accomplir comporte quatre réalités que vous me permettez de vous rappeler. En effet, tout est en Christ est achevé et accompli. Et si on s'en remet en lui, tout devient possible. Ça veut dire quoi? Le premier mot accompli, c'est un terme militaire. À l'époque romaine, quand les généraux vont en guerre et qu'ils remportent la bataille, ils tirent derrière eux tous les esclaves dans une sorte de filet, ils rentrent dans l'amphithéâtre sous les applaudissements. Mais avant d'arriver à cette scène, il s'est produit quelque chose sur le champ de bataille. Quoi? Il va demander au chef d'escadron qui est dans la vallée. Nous avons remporté la bataille, certes. Nous avons vu que les ennemis étaient décimés, certes. Est-ce que tu as vérifié qu'aucun n'est survivant? Alors, le chef d'escadron qui est dans la vallée, il va prendre son épée, il va contrôler corps par corps. S'il y a un qui continue à respirer, il lui donne le dernier coup de grâce pour qu'il meure. Et une fois qu'il aurait fini son inspection, qu'est-ce qu'il fait? Il reste là-bas, il fait sa main pour montrer au général que tout est accompli. La bataille est finie. Aucun ennemi n'est en vie. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est monté sur la croix de Golgotha. Tous les grands démons qui sont au monde là se sont donné rendez-vous sur lui. Ceux qui ont voulu le tuer quand il était encore bébé. Ils se sont retrouvés à la croix. On va finir avec lui aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a été élevé à la croix vers midi. Et à midi, le ciel s'est obscurci. Plus de soleil. Il faisait noir à midi. La nature veut dire que nous ne voulons pas assister à la mort de celui par lequel nous avons été créés. Jésus est la parole. Jésus est le Fils de Dieu. Les anges de Dieu étaient au point pour en découdre avec les démons. Et Jésus dira, si mon royaume était de ce monde, je dirais aux anges de mon Père de venir à mon secours. Mais je suis venu pour accomplir une mission. m'offrir en sacrifice comme une génisse pour scier l'alliance avec Dieu. Et il n'y a aucune puissance des ténèbres qui ne peut être au-dessus de vous, mes bien-aimés. La Bible a dit que notre vie est cachée avec Jésus en Dieu. Imaginez, notre vie, ta vie, la mienne, elle est cachée en Jésus, en Dieu. C'est ce qui dit Colossiens. C'est une promesse. Elle est vraie. Elle est vraie, mes bien-aimés. Cette promesse, elle est vraie. Deuxième sens du mot « accomplir ». Ça a un sens domestique. C'est que vous avez quelqu'un qui vous prépare à manger chez vous, à midi, il a tout fait, la table est préparée, et il prend sa cloche, il sort, il dit « Patron, madame, la table est prête. » Vous venez tranquillement, vous vous mettez à table, vous mangez, une fois payé, vous essuyez votre bouche, vous partez. Il vient, il dessert la table, il nettoie, et ça recommence. C'est ce que Jésus a fait. Qui est le plus grand, celui qui est à table ou c'est celui qui sert? C'est ce que Jésus disait dans Jean chapitre 15, Jean 13. Qui est le plus grand? C'est celui qui sert ou c'est celui qui est à table? Celui qui est à table, c'est nous. Mais est-ce que Jésus, en servant, il a perdu son autorité de Seigneur? Non. Mais, troisième sens du mot, c'est un terme commercial. Solde de tout compte. Vous devez 1 million, voilà que vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez que 50 000, vous payez, il vous reste encore énorme. Or, dans l'ancien temps, quand tu ne paies pas ta dette, tu es porté en captivité. On vient te chercher, toi et tes enfants, tout le monde va en esclavage. Jésus a dit que voilà, il a une dette de presque 1 million, il ne peut pas payer, il est propre pour l'esclavage, pour être condamné. Ne lui dites pas, je paie à sa place. Jésus a payé. J'ai vécu un tel événement comme ça, notre joie, en partant en mission en Afrique. Une de mes connaissances avait contracté une dette pour ses études et devait continuer à payer une forte somme d'argent. Voilà que je dis, Seigneur, on obéit à ta volonté, on s'en va. Et voilà que quelques mois plus tard, on reçoit un chèque de la part de la Société Générale pour nous dire que vous ne devez plus rien, quelqu'un a payé votre dette. Voilà. Qu'est-ce que c'est soulageant? Et la quatrième réalité du tout accompli. Prenez-le pour vous, pour votre famille, nous allons prier tout à l'heure. C'est un terme carcéral. C'est-à-dire, vous commettez une infraction, vous passez devant le juge de peine, on vous inflige une peine de 365 jours. Bon, je suis clément là. On vous dépouille de toutes vos affaires quand vous arrivez en prison. Et on prend un registre, on met votre nom, vous commencez votre date de purge quand? Aujourd'hui, le 26 février. Hop, on marque 26 février. Le lendemain, 26 février, 365 jours ou moins 1. Après 365 jours, moins 10. 365 jours, moins 100 jours. Ainsi de suite. Et jusqu'à ce que vous ayez terminé. 365 jours moins 365 jours égale 0. Vous sortez, vous récupérez vos affaires, vous partez. Plus personne ne viendra vous dire, hey, « Eh monsieur, vous n'avez pas purgé votre peine et retourné en prison. » Personne. Parce que vous l'avez déjà purgé. Et ça, Jésus l'a fait à notre place. Il mérite une condamnation éternelle? Oui, Père, parce qu'ils sont pécheurs. Mais moi, j'ai déjà porté. Il ne doit rien. L'ennemi vient susurrer à tes oreilles que, oh, tu es le pauvre de tout le monde. Toi, tu n'es qu'un pauvre pécheur. Le mot pauvre pécheur, là, c'est un mot qui me gêne. On n'est pas pécheur. On est des enfants de Dieu nés de nouveau. Mais il nous arrive de commettre des fautes. Vous voyez la différence? Pas pareil. Parce que celui qui est en Christ ne pêche plus, même s'il commet une faute. C'est dur à comprendre. Hein? Je répète, celui qui est en Christ est réellement, et le tout commence par la nouvelle naissance. Si vraiment nous sommes nés de nouveau, cette réalité s'applique dans notre vie. Si elle ne s'applique pas à notre vie, vérifiez notre conversion. Sommes-nous bien branchés au courant? C'est ça le problème. Parfois, on veut repasser le vêtement, mais on oublie qu'on n'a pas branché. Et beaucoup ont la vie chrétienne d'apparence, avec des mots chrétiens, mais il n'y a aucune dynamique de la vie spirituelle qui se déclenche. Jésus est mort pour toi. Oui, Jésus est mort pour moi. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est qu'un morceau de la vérité. L'autre morceau, c'est quoi? Il faut que moi aussi, je meure en Jésus. Christ est mort pour moi, oui. Mais moi, suis-je mort pour lui? Sinon, ce qu'il a fait ne manifeste pas dans ma vie. Il faut qu'il meure pour moi. J'en prends conscience. Moi également, je meurs en Christ. À partir de ce moment, tout se joint. Et la puissance de Dieu se met en route. Que je dorme, la puissance de Dieu est là. Que je pêche, il y a un recycleur qui est là, qui me nettoie au fur et à mesure. Celui qui est en Christ ne pêche plus. Voilà la réalité. Voilà ce que ça veut dire. Que Dieu veut montrer à Abraham. Cette alliance, elle est imparfaite. Mais je vais donner une nouvelle alliance, plus parfaite. Et c'est celle de Christ. Il agit en nous. Il travaille en nous. Et il nous conduit. J'ai un autre texte sur lequel je vais terminer et sur lequel je reviendrai beaucoup plus tard. Je vous ai dit que l'alliance de Dieu était inconditionnelle. À quel moment elle devient conditionnelle? À la demande du peuple. Quand le peuple sortait de l'Égypte, ils ont dit au Seigneur, « Dis-nous tout ce que tu veux, comme nous avons vu dans les autres pays, et nous allons obéir. » Dieu a dit, « Ah bon ?» Vous savez, avant la loi, le peuple de Dieu péchait, mais ils n'étaient pas morts. Ah oui ? Avant la loi, la grâce de Dieu était déjà là. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit, « Seigneur, dis-nous tout ce que tu veux de tes lois, et nous allons y obéir. » Ah, Dieu a dit, « Vous n'avez rien compris alors. » Alors Moïse, amène-le à côté de mon Sinaï. Je vais te donner les lois et je veux voir s'ils vont obéir à cette loi qu'ils ont réclamée. Voilà. Si vous obéissez à mes commandements, vous serez pour moi un peuple sur toute la surface de la terre. Vous serez bénis si et le si commence. Condition commence. Et comme on est incapable d'accomplir ce que Dieu nous a demandé, mais qu'est-ce qui arrive? Voilà. La loi devient une malédiction pour nous. C'était ça. Quand vous attendez l'issue dans la parole du Seigneur, c'était conditionnel, c'est à la demande du peuple. Dieu veut leur faire montrer que vous êtes incapables d'obéir à mes commandements. Je vous ai fait grâce, mais vous n'avez pas compris. Mais comme Dieu est un Dieu de miséricorde, il est revenu encore là-dessus. Il a dit la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Dieu a vu nos peines. Il a vu comment le peuple de Dieu était incapable d'obéir à ses commandements. Alors Jésus est venu. Voilà le sens de Christ, mes bien-aimés. Vivre pleinement la voie de Dieu, c'est honorer Jésus dans le sacrifice qu'il accomplit. Si le salut peut être obtenu sans Jésus, mais pour quelle raison Jésus serait mort à la croix? Pire que tout, c'est un grand blasphème de ne pas reconnaître l'autorité de Christ. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont beaucoup péché. Non. Les gens n'iront pas en enfer parce qu'ils ont beaucoup péché. Non. Les gens iront en enfer pourquoi? Parce qu'ils auraient refusé de saisir la main que Dieu leur a tendue. La main de grâce. Voilà que si nous refusons la main de grâce de Dieu, nous pouvons faire de bonnes choses dans notre vie. Mais aux yeux de Dieu, c'est un vêtement souillé. C'est ce que dit le Seigneur. Si tu n'es pas en Christ, tout ce que tu as accompli pour Dieu est un vêtement souillé. Parce que nous sommes incapables de vivre la volonté du Seigneur, nous voulons le compenser par nos œuvres. Et nous retrouvons la théorie des islamistes ou d'autres religions. Que le jour du jugement viendra où Dieu va mettre en balance ce que tu as fait de bien et ce que tu as fait de mal. Lorsque c'est négatif, allez en enfer. Et lorsque c'est positif, allez, tu vas au paradis. Vous avez lu ça quelque part là, dans la Bible? Non. Non. Je le dis de tout mon cœur parce que j'ai entendu dans une prédication la semaine qui est passée et même dans le jour précédent. Les gens qui sont dans la même communion de l'Église que moi et qui prêchaient une parole de ce genre. Je me dis que nous avons besoin de revisiter notre Bible. Il y a une croyance spontanée que nous avons sur le plan émotionnel, et ça je l'avoue, mais je voudrais que maintenant nous puissions avoir une croyance qui est une foi. Une foi éclairée par la parole du Seigneur. Parce que vous savez le danger, c'est que ce genre d'esprit pénètre petit à petit dans le corps de Christ et l'autorité de Jésus-Christ est en train d'être vidée de l'Église. Et l'Église de Jésus, qui est censée être l'Église chrétienne, écoutez-moi bien l'expression, vous allez entendre ces jours-ci. Peut-être dans notre culture d'Église, on n'en a jamais entendu parler, mais ça va devenir une Église babylonienne. C'est-à-dire une Église dans laquelle la vérité de Christ n'est pas vécue totalement. On vit à petite moitié. On vit une portion de loi, on vit une portion de grâce, on vit une portion de loi, on vit une portion de grâce, et on ne vit pas pleinement. On ne vit pas pleinement. Alors, cette parole, nous allons la voir. Laissez Christ agir en nous. Pleinement. 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 Seigneur, tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu t'es offert en sacrifice pour nous. Viens vivre pour nous. Voilà la loi du Seigneur. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de revenir dans les fondamentaux. Hein? Vous avez la chance que Dieu vous a envoyé des pasteurs qui sont au plus proche de la parole et qui essaient de vous conduire. Et ce que nous sommes en train de dire, nous le partageons tous dans le binôme pastoral. Avec Clémence, on a mis en place, on a dit, mais que faire? Que faire? Allons-nous faire comme Dieu nous a demandé dans le livre de Jérémie, de tout détruire, de tout arracher, de tout abattre et de reconstruire? Quelque part, c'est ça. Mais non, Dieu vient, nous avons les fondamentaux. Appuyons-nous sur les fondamentaux qui sont les vrais. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Je peux aller plus loin pour vous dire que l'esprit de l'antéchrist est dans le monde à l'heure actuelle. Et sur ça, je reviendrai. Comment est-il dans le monde? C'est que quand on n'est pas éclairé de la parole du Seigneur, sans le vouloir, je ne vous accuse pas, et y compris moi d'ailleurs, sans le vouloir, il vient de manière insidieuse. Quand vous avez la colère contre quelqu'un, vous ne lui demandez pas pardon, mais que vous prenez la scène, vous pensez que c'est quoi? C'est l'Esprit du Seigneur, ça? Ah non! Ah non. Je finis. Il est dit, bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance avec vous. Il y a un texte que je cherche dans Jean, 1 Jean chapitre 2. Je ne sais pas si l'avoir perdu. Je peux l'avoir, s'il te plaît? Ah, voilà, je l'ai. Jean, 1 Jean chapitre 2. Non, chapitre 4. Si je peux l'avoir, on lit ensemble. Et je termine là. Voilà. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de... C'est pas ma phrase, hein, c'est la parole de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de... C'est celui de l'anti dont vous avez appris qu'il vient et qu'il est maintenant et qu'il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'antichrist. Antichrist, c'est ne pas vivre la vérité du Seigneur. Et cet esprit d'antichrist étouffe la lumière de Dieu en nous, progressivement. Parce que là où il n'y a pas la lumière du Seigneur, le diable prend le dessus. Là où il n'y a pas la lumière de la vérité, le mensonge prend le dessus. Et domaine par domaine, esprit par esprit, si nous perdons la flamme du Saint-Esprit, la mort insidieuse spirituelle nous saisit et progressivement nous devenons insensibles aux choses de Dieu. Et c'est l'événement qui va se manifester maintenant, là, dans les derniers temps. Maintenant, nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes pleins dans le cœur de l'Apocalypse. On y est. Je vais juste vous poser une question. Je parle avec tout mon cœur. Vous aimeriez que les gens vous disent le mensonge pour que vous dormiez tranquille, sans vous être dérangé? Ah oui? Les gens auront la démangeaison d'attendre des choses qui leur plaisent. Ils vont s'établir sur eux des docteurs sur docteurs pour faire quoi? Pour leur dire des choses qu'ils ont envie d'entendre. Et quelqu'un comme nous, là, vous allez nous jeter aux orties. Et je le souhaite d'ailleurs. Voilà. Mais c'est par amour du Seigneur. Par amour pour vous et c'est par la crainte de Dieu. L'apôtre Paul a dit, si je veux plaire aux hommes, je serai plus serviteur du Seigneur. Mais je le suis auprès de vous pour la vérité. Mieux être blessé pour la vérité et être sauvé plutôt que d'être anesthésié par le mensonge et de se retrouver trop tard. Réveillons-nous, enfants de Dieu. L'Esprit du Seigneur, il est là. Il attend que les occasions pour ouvrir les cœurs. Alors, je vais vous donner un esprit pour, contre lequel je vais prier tout à l'heure, mais il faut que je vous explique quel genre d'esprit. Tout à l'heure, Dieu a dit à Abraham, je vais te donner des pays, et il a cité le nom. Je vais en citer deux. Par exemple, l'esprit guirgazien, je vous l'expliquais déjà. C'est un esprit qui nous pousse à considérer que les choses de la terre. OK? Il y en a plein. Et là, on dira que ce sont des chrétiens, mais des chrétiens charnels. Je veux donner encore un autre esprit, un esprit cananéen. L'esprit cananéen, c'est l'esprit des peuples de la plaine. C'est un esprit qui vous pousse à la dépendance, aux dépendances. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la pédophilie, ça peut être la pornographie, tout ce qui est perversion. C'est ça, ce genre d'esprit. Vous regardez notre monde, là? Vous entendez la télé? Voilà. Ça, ce sont des esprits. Et pour que l'Église avance dans la vérité, il faut que ces esprits, nous arrivons à les vaincre, à triompher d'eux. Je vais vous dire encore une autre. L'esprit évien. On appelle ça l'esprit villageois, pas dans le sens mauvais du terme, mais ici c'est dans le sens péjoratif, qui a une vision limitée des choses de Dieu. L'espace du Seigneur est un espace très vaste. Et cet esprit nous fait que nous regardons parfois le salut avec un regard limité. Ah si j'ai déjà mon salut, c'est l'essentiel. Non, dans les choses de Dieu, il y a des choses encore beaucoup plus profondes. Il faut avoir les yeux ouverts. Voilà ce type d'esprit qui a fait l'objet d'une intercession il y a 2 ans avec le groupe. Mais j'aurais aimé le partager avec toute l'Église parce que ça concerne l'Église. Mais aujourd'hui, je vais prier contre ces esprits qui maintiennent esclaves nos familles, nos enfants. Nous sommes sauvés, mais eux, ils ne le sont pas et notre joie n'est jamais totale parce qu'un membre de notre famille est sous le coup de l'ennemi. Je vais prier pour que nos cœurs soient réveillés, bien-aimés. Et soyons en alerte par ces temps. Et que les liens invisibles que l'ennemi a établis pour détruire les vôtres, que nous puissions implorer la grâce du Seigneur à notre faveur. Voilà ce que je vais vous partager. Voilà ce que je vais vous partager. Elle m'a tellement étreint le cœur cette nuit que je me dis, on va partager. Laissez-vous conduire par cet esprit, mes bien-aimés. Vous allez être spectateurs de ce que Dieu fait. Dieu se veut un peuple fort, un peuple établi, un peuple libéré. Seigneur, depuis longtemps, parfois, nous vivons une vie dite chrétienne, certes, mais qui est pleine d'illusions. Et l'illusion sur laquelle, Seigneur, notre conscience n'est pas éveillée. Mais nous en voyons parfois les résultats. Nous voulons être une église de Christ, dont Jésus est la tête, et nous sommes le corps. Pas une église qui a une autre nature que celle de Jésus. Parce qu'étant son corps, nous obéissons à ce que dit la tête. Et la tête, c'est la vérité, c'est Jésus. La tête est délivrée. La tête est ressuscitée. La tête est établie à la droite de Dieu. Il règne sur toutes les dominations. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes mains ce matin. Que le voile soit déchiré. Tout ce qui est religiosité séductrice doit être anéantie et nous proclamons que la vérité entre dans nos cœurs et que la lumière de Christ jaillisse. Nous sommes appelés à être des missionnaires dans nos propres familles, qu'au travers de nous, la lumière de Dieu jaillisse et que les gens en soient délivrés. Car tu as fait cette promesse, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais voilà que plupart des membres de nos familles, nos enfants, nos conjoints parfois, sont sous le joug de l'ennemi. Le diable les séduit, les conduit vers les plaisirs de ce monde. Il les amène à vivre comme s'ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Seigneur, nous refusons. Nous nous saisissons de ta promesse et nous disons non. L'ennemi, lâche-les. Lâche ses enfants. Lâche les conjoints. Lâche. Lâche-les. Jésus a donné sa vie à la croix pour eux. Son sang a été versé. Et par ce sang, nous implorons, Seigneur, ton intervention. Libère les nôtres. Libère les nôtres et libère nous-mêmes. Donne-nous d'aller en eau profonde avec toi. Il y a tellement de choses que tu veux nous apprendre, car lorsque Jésus reviendrait, ces choses seraient inutiles. C'est maintenant leur utilité. Ouvre nos yeux afin que nous comprenions, pour que nous soyons mûrs, pour faire face aux épreuves qui vont venir. Car c'est l'un des buts du travail que tu nous as donné auprès de ton peuple. Les préparer pour les temps difficiles. Les amener à vivre comme une famille solide. Et ça, nous le voyons. Gloire te soit rendue. Mais nous voulons avoir la vraie connaissance du Dieu véritable, juste et vrai. Et c'est au travers de ta parole. Sois béni, Seigneur. Bénis mes frères et bénis mes sœurs bien-aimées. Bénis moi-même, nous avons besoin de toi. Qu'ensemble, nous puissions y arriver lorsque Jésus viendra nous chercher. Nous rendons gloire à toi, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus. Amen.